Avec nous, Bernard, le maître du roman d'espionnage, Frédéric Forsyth. Bonsoir.
Bonsoir à vous.
À 78 ans, vous publiez donc votre autobiographie, L'Outsider, chez Albin Michel. Et le moins que l'on puisse dire, Bernard, c'est que la vie de Frédéric Forsyth est à elle seule un roman.
Oui, avant de devenir l'un des auteurs les plus vendus dans le monde, avec des livres qui sont aujourd'hui des classiques de l'espionnage, Chacal, Le dossier Odessa ou Les chiens de guerre, vous avez été, Frédéric Forsyth, le plus jeune pilote de la Royal Air Force à 19 ans, puis l'un des meilleurs grands reporters de votre génération, un parcours exceptionnel, une vie d'aventure qui passe d'abord par Paris en 1961, où vous êtes nommé, Frédéric Forsyth, correspondant de l'agence Reuters.
C'est vrai, Paris, à l'époque, était une cité très, très mouvementée. On craignait peut-être même coup d'État, l'assassinat du président.
On sortait de la guerre d'Algérie avec l'OAS.
L'OAS, etc. Il y avait tout ça. Et j'avais 23 ans, mais un avantage, je parlais mieux français que mes compatriotes dans le bureau. Alors Harold King, le légendaire chef de bureau de l'agence Reuters à l'époque, il m'a assigné à suivre Charles de Gaulle partout. Et c'était pour le moment où cette balle le touche au front. Il le savait, il méprisait l'OS, le danger physique, la presse, tous. Et il marche en avant. C'était extraordinaire.
Et vous partez ensuite toujours comme correspondant de Reuters à Berlin. Est-ce qu'on est en pleine guerre froide?
Je suis arrivé en septembre 1963, âgé de 25 ans, et Kennedy assassiné.
L'assassinat de Kennedy.
Deux mois plus tard, c'est oui. Le 22 novembre.
Et vous vivez
le monde plongé en crise, voilà. Et surtout là-bas, il craignait que ce serait la guerre.
C'est ce que vous expliquiez très bien. Vous vivez donc l'assassinat de Kennedy de là-bas, de Berlin-Est, voilà. Et où d'un seul coup, il y a cette crainte.
Le juin,
les
il
Russes
avait
même, les Allemands de l'Est, viennent vous demander à vous, mais est-ce que vous pensez qu'il va y avoir la guerre?
Est-ce que ce serait la guerre? Alors j'ai dit non. J'ai dit non, absolument pas. J'avais aucune idée. Mais j'ai dit non, absolument pas. Laissez-moi passer.
Et vous expliquez que, évidemment, vous êtes toujours sous surveillance, que vous avez toujours la Stasi aux trousses.
Oui. Il y avait dans le bureau, il y avait des écouteurs dans mon appartement, des écouteurs. J'ai été suivi dans la rue.
Vous racontez aussi une autre anecdote qui, heureusement, se termine d'une manière très drôle. C'est que vous avez failli déclencher la Troisième Guerre mondiale, Frédéric Forsyth, par l'un de vos reportages, l'un de vos papiers.
Honteuse. Je revenais à mon appartement à 2h du matin.
Donc à Berlin-Est.
Oui, j'avais passé quelques heures avec une charmante demoiselle de l'opéra. Et tout soudain, il y avait un soldat soviétique devant moi, la main élevée, stop, halt, stoy, qu'est-ce qui se passe? Et puis, je vois colonne après colonne
de chars blindés,
d'infanterie soviétique, etc., en direction du mur. Alors je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe? C'est possible qu'ils vont envahir.
Berlin-Ouest.
Alors finalement, je suis arrivé à mon bureau et je pensais, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas rester silencieux, mais je ne peux pas interpréter. Alors, je vais reporter seulement ce que j'ai vu. Puis finalement, il pratiquait pour la cérémonie du 1er mai.
C'était une répétition
du
défilé du 1er mai.
Sans dire une parole à personne, milieu de la nuit.
Oui, mais du coup, votre papier a déclenché la panique dans toutes les ambassades et les capitales.
Finalement, on a demandé de Moscou, qu'est-ce que vous faites? Moscou a dit,
la répétition
pour les cérémonies du 1er mai.
Après cette expérience est-allemande, alors vous devenez grand reporter à la BBC et vous partez en Afrique pour suivre la guerre du Biafra. Ça reste encore aujourd'hui votre expérience la plus douloureuse?
2 ans là-bas. J'ai témoigné beaucoup de choses dégueulasses. C'est peut-être dans tout le bouquin, c'est l'épisode le plus sérieux, parce qu'on ne peut pas être rigolo sur les enfants mourant de faim. C'est impossible.
Et au Biafra, vous frôlez la mort, Frédéric Forsyth. Vous racontez qu'à un moment donné, même une balle vous traverse la chevelure. Vous l'avez gardé longtemps comme un talisman.
Tous les correspondants de guerre, on parle de l'héroïsme des soldats, mais on ne mentionne pas les pertes des correspondants de guerre. depuis Vietnam et toutes les autres guerres, et on parle des centaines de journalistes qui sont morts. Parce qu'il faut, si on veut avoir le story, aller au front.
Frédéric Forsyth, et parce que vous avez dénoncé l'attitude de Londres dans la guerre du Biafra, vous êtes renvoyé de la BBC. Et alors là, vous décidez d'écrire un roman et ce sera Chacal.
C'est une idée folle. J'étais revenu à Londres, j'avais pas de pognon, j'avais pas de boulot, j'avais pas une carrière. Et j'ai pensé, qu'est-ce que je vais faire? Oh, je sais, je vais écrire un roman. Et tous mes copains me disaient, Freddy, tu es dingue. On n'écrit pas un roman pour faire du Grisby. Avec donc l'innocence de l'homme qui ne sait absolument rien, j'ai décidé quand même d'écrire un roman, un story, revenant à Paris les années 62-63. Oui. Donc, Chacal.
Donc, vous imaginez qu'un tueur est commandité par l'OAS pour abattre le général de Gaulle. Combien d'exemplaires vendus dans le monde pour Chacal, vous le savez?
Quelques 12 millions.
12 millions. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'au départ, vous essuyez plein de refus. C'est combien? C'est 5 éditeurs qui disent, mais non, ça n'est pas intéressant.
Tout d'abord,
personne ne croira à cette
histoire.
Mais
logiquement, c'est le cinquième qui a vraiment fait commander. Il a lancé un pari. C'est absolument super important que j'ai la liberté de dire ce que je veux dire, écrire ce que je veux écrire, et ne pas être compromis avec la vie de Pacha. La vie de Pacha m'a jamais attiré, mais je sais qu'il y a beaucoup pour lesquels le pouvoir, l'argent, le privilège sont des dieux. Je méprise cela.
Frédéric Forsyth, juste une question d'actualité. Je crois que vous êtes favorable au Brexit à la sortie de votre pays, la Grande-Bretagne, de l'Union européenne, c'est ça?
Ce qui nous agace, c'est cette arrogance, cette interférence constante de cette armée de bureaucrates qui vivent sur nous, à Bruxelles. Ce n'est pas notre gouvernement, Bruxelles, c'est Londres. Alors, je veux que ça soit rappelé à Londres.
Merci infiniment Frédéric Forsyth, L'Outsider, publié chez Albin Michel.
Alors, merci Bernard.
Place au coup de cœur du libraire à Bourg-en-Bresse. Lydie Zanini nous attend à la librairie du théâtre. Bonsoir.
Bonsoir.
Bernard, quel livre a choisi Lydie?
Sympa, d'Alain Chiffre, une exploration assez caustique de certains tics de notre époque.
Tout est sympa de nos jours. Une appli, une paire de chaussures, les apéros dînatoires, les voisins, tout y passe. Tout est vraiment sympa. Et la plume d'Alain Chiffre me ravit vraiment. Parce que, apparemment, nous, petits Français, nous ne sommes qu'empathie, gentillesse. Et pourquoi on ne dit plus aux gens ce qu'on pense d'eux en face? Est-ce qu'on serait devenu absolument tout mou? On ne fait que liker? On est des, je pense, un petit peu focus? Il me semble qu'à travers la voix d'Alain Chiffre, il y a beaucoup de pendules qui sont remises à l'heure sans y toucher. Et j'ai trouvé que c'était drôle, amusant. Monsieur Chiffre a une virtuosité dans l'écriture. Le ton est caustique, c'est bonheur, bonheur, bonheur. Pour moi, c'est ça.
Une lecture sympa.
Ah oui, c'est une lecture sympa, tout à fait. Tout à fait ça.
Ben voilà, sympa, oui. D'Alain Chiffre, donc, publié par Le Dilettante. C'était votre coup de cœur, Lydie Zanini, de la librairie du théâtre à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain.
Les livres et la culture, c'est chaque matin de la semaine à 9h dans Laissez-vous tenter. Quant à vous, Bernard, on vous retrouve dimanche prochain à 18h50.
Avec plaisir, et d'ici là, bonne lecture.